alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 15 mars sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Campredon. Bonjour Julien.
Adieu, bonjour Claire.
Voilà, oui, rappelons, Julien est occitaniste, donc voilà. Et j'ai intérêt à être à la page. Et alors, il va nous parler aujourd'hui de son recueil de nouvelles intitulé « L'attaque des dauphins tueurs » aux éditions de Monsieur Toussaint L'Ouverture. On en parle avec lui dans quelques instants. Mais comme à l'accoutumée, quelques infos, quatre exactement, pour vous rappeler que ce soir, vendredi 15 mars à 20h, à la bibliothèque de Lavernose, rendez-vous avec le théâtre du Soupetard et la poésie remuante de Gaston Couté. Collieux et Subesio, rock, standard et texte de Gaston Couté. C'est entrée libre, donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes par là, vers Lavernose. Ensuite, demain, samedi 16 mars à 18h, à la librairie Ombre Blanche, 50 rue Gambetta à Toulouse, une rencontre avec Emmanuel Urien et son nouveau roman intitulé « L'art difficile de rester assise sur une balançoire ». C'est aux éditions de Noël et cette rencontre sera animée par Jean-Antoine Loiseau, qui d'ailleurs sera Page à Page le 5 avril prochain pour nous présenter le programme des rencontres du livre et du vin de Balma. Et puis toujours le samedi 16 mars, c'est-à-dire demain, mais un peu plus tard dans la soirée, à 21h exactement, à la salle des fêtes de Sainte-Foy de Pérolière, une rencontre avec Francis Pornon et son nouveau roman « À la santé des Pachas » aux éditions Après la Lune. L'entrée est libre, là également. Et puis je vous annonce pour le samedi 23 mars, l'atelier mensuel de poésie qui a lieu à la médiathèque José Cabanis à Toulouse, au petit auditorium au troisième étage. C'est de 10h30 à 12h30. Il est animé par Blandine Poney. C'est un atelier gratuit, mais il faut réserver pour une question de place au 05 62 27 45 69. C'est pour le 23 mars.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, je me tourne vers Julien Campredon, mon invité d'aujourd'hui et jeune papa.
Eh oui, depuis pas très longtemps.
Le 10 février ?
Oui, c'est ça.
Un petit Marius ?
Un petit Marius qui va bien et que j'ai abandonné pour l'occasion.
Oh, nous te remercions alors de cet abandon et tu lui feras un gros bisou de notre part quand tu rentreras.
Je n'y manquerai pas.
Alors, Julien, on rappelle donc que tu es natif de Montpellier, mais dans la région toulousaine depuis pas mal de temps.
Je suis arrivé en 85 à Toulouse.
Ah voilà, oui, donc
ça fait un petit moment.
Un petit moment. Alors, tu as publié plusieurs recueils de nouvelles, pour ne citer que, par exemple, Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes, qui vient d'être réédité d'ailleurs aux éditions de Monsieur Toussaint L'Ouverture.
Alors, c'est une histoire un peu particulière. En fait, il y a déjà une histoire. Avant de lire les histoires, il y a l'histoire du livre. Donc, voilà, c'est que Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes est le premier livre d'un seul auteur des éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Donc, dans un sens, on peut considérer en fait que la maison d'édition s'est un peu lancée sur ce livre. Et en général, c'est un peu les livres marchepieds qu'on oublie vite, puisqu'il n'y a pas de presse, l'auteur n'est pas connu, la maison d'édition n'est pas connue. Donc, le livre est sorti en 2006 à un faible tirage. Et puis, il a gagné le prix des Gourmets des Lettres en 2007. Puis, il a été réédité en 2008 dans une nouvelle mouture, puis réédité encore une fois, et puis réédité dans une troisième mouture en même temps que l'attaque des dauphins tueurs.
Dont on va parler aujourd'hui.
Ça, c'était en 2012, si je ne dis pas de bêtises.
Donc, oui, l'année dernière.
L'année dernière. Brûlons tous ces punks va être enfin réédité. Donc, c'est la cinquième édition, quatrième mouture, va être édité chez Pocket
en
août, normalement. Enfin,
en poche. Ouais. Et puis, il y a aussi Boris le Babylonien.
Pareil, qui vient d'être réédité à l'Atelier du Guet. Donc là, c'est mon tout premier livre.
Voilà, c'était le premier, en fait. J'aurais dû commencer par celui-là.
Voilà, c'est le premier, mais ce n'est pas un recueil de nouvelles. Donc, c'est normal de pas... Voilà. C'est une seule nouvelle. Donc, c'est un livre d'actualité puisque c'est un livre sur le Salon du Livre de Paris. Donc, si c'est à bien un moment pour acheter et lire Boris Aubagnolin, c'est tout de suite maintenant, voilà, puisque bientôt le Salon du Livre. D'ailleurs, si un lecteur achète plus de 200 exemplaires avec une facture, je peux lui envoyer une invitation à l'inauguration du Salon du Livre.
Super, merci Julien. Et puis tu étais venu dernièrement donc, pour nous présenter un autre recueil de nouvelles intitulé « L'assassinat de la Dame de Pique » aux éditions Monsieur Toussaint Louverture.
Non, non, ça c'était aux éditions Léo Cher.
Oh,
non, c'est pas
erreur
grave.
De ma part, moi j'étais à fond Monsieur Toussaint Louverture. Désolée.
Ah ben non, mais il n'y a pas de quoi.
Bah si, si. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'attaque des dauphins tueurs qui, lui, est bien aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture.
Voilà.
Un recueil de nouvelles aussi. Alors actuellement, tu fais pas mal d'ateliers d'écriture.
Oui, bah, disons que j'avais envie un peu de me lancer dans des projets un peu d'envergure. Bon, j'ai fait d'abord, dans le cadre de la boutique d'écriture du Grand Toulouse, j'ai fait des ateliers à Beauzelle. Et là, c'est un projet européen qui est soutenu par l'association Écrire l'Europe avec Hélène Dufaux.
Ah oui, qui est une auteure toulousaine, voilà, que nous connaissons bien.
Qui donc m'a proposé de monter quelque chose avec les lycéens, une classe de lycéens du lycée Pierre-Paul Riquet
à
Saint-Orens-de-Gameville. En collaboration, en partenariat, je ne sais pas quel est le terme exact, avec Antonio Altarriba, qui est un auteur scénariste espagnol, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de voler, enfin en français le titre c'est L'art de voler. C'est une revue, où on appelle, pas une revue, une BD où on appelle ça roman graphique, qui a beaucoup fait parler de lui, et qui en fait évoque au travers du suicide de son père et quelque part l'échec de sa vie, la misère des Espagnols républicains restés en Espagne.
D'accord, et oui, ce qui est le sujet
qui est lourd, mais en même temps qui est très intéressant,
oui,
parce qu'en étant à Toulouse, on a toujours entendu l'inverse.
Oui,
on a toujours entendu
vrai.
Parler des républicains qui étaient en
exilés.
France.
Exilés, voilà, oui, exilés. Voilà. Tout à fait, mais pas ceux qui sont restés sur place.
Voilà.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et là, on se rend compte que les vrais cocus de l'histoire, c'est ceux qui sont restés. Quoi.
Et oui. Et tu fais aussi des scénarios, enfin,
je travaille avec Pidget Prod, qui est une maison de production occitane, et on travaille sur des courts-métrages, mais aussi sur des courts-métrages qui pourraient se transformer en série.
D'accord.
Voilà. En occitan.
En occitan. Bon, bah, à suivre.
Oui, à suivre. Mais
peut-être à en parler ici à Radio Occitanie, enfin dans une autre rubrique, mais...
Je garde l'invitation derrière l'oreille.
Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler donc de ton recueil de nouvelles, L'attaque des dauphins tueurs. Moi, j'ai beaucoup aimé un recueil plein qui est drôle, qui est avec 5 fables, donc il y a 5 nouvelles, mais qui sont des fables pleines d'humour et sur des sujets actuels, avec du fond, un humour souvent grinçant, caustique, comme on te connaît, Julien, depuis le premier recueil, Brûlons tous ces punks. Hein. Et puis, toujours burlesque, des histoires burlesques à souhait, beaucoup d'imagination, de finesse et une belle écriture. Moi, j'ai été sensible à cette belle écriture. Et puis, bon, pour se moquer, bien sûr, de l'absurdité du monde, des travers de notre société. Et moi, j'ai vraiment souri à pratiquement toutes les pages et dans toutes ces 5 fables. Vraiment, c'est vraiment très, très amusant. Mais comme je le rappelle, avec du fond.
Mais ça me fait plaisir. Parce que c'était vraiment l'objectif.
Et puis, Paris gagné.
Et puis, merci. Et surtout, en fait, c'est parce que je suis très sérieux que j'essaie d'être drôle, ou inversement, c'est parce que je suis drôle que je suis très sérieux. C'est intimement lié, quoi.
Oui.
Et c'est plus les sujets sont graves, plus il faut en rire, et plus on en rit, plus il faut se demander pourquoi.
Plus tu prends du recul,
Oui. Bon, des fois, il y a de quoi sangloter, sinon. Enfin, ce que j'ai un peu fait dans avec l'assassinat de la Dame de Pique.
Dans le précédent.
Voilà. Mmh. Bah, en fait, j'ai réussi. C'est un peu a posteriori que j'ai vu une espèce de construction un peu hegélienne de mes livres, c'est-à-dire on pourrait voir presque Boris le Babylonien comme un peu une introduction à ce que je voulais faire. Et ensuite, en tant qu'auteur, j'apparais avec Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes. Ensuite, je m'extériorise, je me confronte au monde, et donc ça donne L'assassinat de la Dame de Pique, qui est un recueil qui est un peu désabusé, on va dire. Et après,
oui, c'est vrai, il y avait
fort
un côté
de cette expérience,
un peu noir, un peu plus noir, voilà, que dans celui-ci.
Tout à fait, parce que fort de cette expérience, je reviens sur moi-même, et là, je fais donc une espèce de fusion rigolote avec l'assassinat de, avec l'attaque des dauphins tueurs.
Tout à fait. Non, c'est très très amusant. Alors, la première, les titres aussi de ces nouvelles sont sympas aussi. La première nouvelle s'intitule Diablerie diabolique au Clubhouse. Alors, moi, c'est là où j'ai appris la définition. Enfin, je ne savais pas que le mot catalan avait deux définitions. La définition du petit Larousse, qui est évidemment de Catalogne, comme on pourrait s'en douter. Et puis, il y a une autre définition qui vient du dictionnaire occitan français. Faut-il avoir cet outil chez soi, le savoir.
C'est la Libère, c'est quand même une référence.
Voilà. Donc, et là, on apprend que catalan, eh bien, ça veut dire diable en occitan.
Oui, alors soit ça dépend des dialectes, mais effectivement, il y a une entrée où c'est diable, et j'adore montrer ça aux catalans, c'est assez rigolo. Mais apparemment, ça pourrait venir, j'ai un ami catalan qui m'a donné cette explication, ça pourrait venir de l'époque des Almogavres qui ont un peu ravagé les abords de la Méditerranée, et apparemment, je crois que c'est en Sicile ou en Sardaigne, je ne sais plus, où on dit « attention aux enfants, si tu ne manges pas ta soupe, le catalan va venir te chercher ».
Ah oui, voilà. D'accord. Ouais. Donc voilà, moi j'ai appris ça, donc ça m'a bien plu. Puis donc c'est une histoire, bon, avec des thèmes actuels, la jeunesse, la conservation de la jeunesse, les expériences.
Mais c'est vraiment le paradoxe en fait, où on traite les jeunes comme de la viande et en même temps les vieux veulent absolument être jeunes. Donc
voilà,
je suis allée au bout du truc, c'est un vieux qui va devenir jeune et puis on va voir ce que ça veut dire.
Oui, non, c'est vraiment très, très amusant. Donc il y a le docteur Gaston Bonanit, qui est urologue et passionné de golf. Et puis il y a aussi le pacte avec le diable, un pacte acte de soufre et de sang avec le catalan, justement. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'humour dans cette nouvelle. Et elle ne finit, moi, je trouve qu'elle ne finit pas vraiment comme on aurait pu le penser.
Ah bah, c'est un peu le...
Sans le dire, parce qu'il faut lire vraiment ce recueil et cette première nouvelle. Ça ne finit pas, voilà.
C'est un peu ce qu'on disait, c'est l'histoire du pacte avec le diable. C'est juste prendre les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens autour de moi que j'ai pu connaître petits-enfants, je me dis, mais comment ils peuvent faire ce qu'ils font aujourd'hui? La conclusion logique, c'est qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Il n'y a pas d'autre
moyen.
Voilà, il n'y a pas d'autre explication.
Donc voilà, ça c'était la première. La deuxième nouvelle, c'est la vengeance du livre magique.
Du livre uruguayen.
Ah oui, pourquoi j'ai mis magique, moi?
Parce qu'il est magique.
Parce qu'il est magique, mais j'ai oublié uruguayen, oui, c'est sûr. Alors il y a une allusion à Luchon, j'ai bien aimé, moi j'aime bien Luchon. Donc j'ai aimé ce petit clin d'œil de Luchon.
Ça c'est justement par rapport à l'entrée en matière. Moi je me définis pas comme occitaniste, dans la mesure où si je l'étais vraiment, j'écrirais directement en occitan. C'est que je pense que, vraiment, c'est ma profession de foi en tant qu'auteur, c'est qu'on doit avoir une interrogation par rapport au lieu. Et c'est quelque chose qui est quand même très, très courant dans toute la littérature mondiale. Sauf en France, on a le droit de revendiquer qu'un seul lieu, c'est Paris. Et si on veut de l'exotisme, ça se passe forcément en Italie ou alors en Amérique du Sud.
C'est un peu dommage, c'est un peu réducteur.
Donc moi, assez vite, je me suis intéressé en écrivant à mon lieu, c'est-à-dire d'abord à Toulouse, puis après, je me suis rendu compte que Midi-Pyrénées, ça avait quand même la taille d'un pays. Et puis
oui,
après, je me suis rendu compte que les frontières administratives n'étaient peut-être pas des frontières logiques, humaines, etc. Puis bon, je me suis intéressé à l'Occitan, etc. Et c'est tout ça qui m'y a amené. Et c'est pour ça que je me suis formé à l'Occitan. C'est parce que je pense que c'est un outil indispensable, paradoxalement, pour pouvoir écrire en français.
Ah oui.
Et d'ailleurs, les deux choses sont liées parce que même quand on parlait des occitanistes, c'est les premiers à être souvent des amoureux de la langue française, même si parfois ils crachent dessus. C'est les premiers à relever des fautes d'orthographe. Donc, donc voilà, je pense qu'en fait, tout ça n'est pas du tout segmenté. Mais, et on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Urien et nous avons aussi son alter ego Manu Kos qui d'ailleurs font souvent des petites incursions dans ce territoire, eux aussi assez souvent mettent des petites phrases en occitan.
Tout à fait, dans le dernier roman de Manu Kos qu'il était venu présenter à page en janvier, L'eau des rêves, il y a effectivement des phrases en occitan, mais comme il avait expliqué à Mitch, notre technicien, c'était un occitan un peu arrangé, dirais-je.
Mais le truc, c'est que aussi, je crois que Manu s'était rapproché de Maurice Andrieux, qui nous a quittés.
Cette année, je crois. Non, l'année dernière. Ouais.
Et du coup, je crois que pour ses premières incursions en terre occitane, on va dire, il avait pu compter sur son aide. Et puis après, ça a été un peu plus possible. Donc, il m'avait demandé, mais je ne sais pas si j'étais la bonne personne. Du coup, je l'avais renvoyé vers l'IEO. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné. Voilà. Pour tout dire, là, c'est les secrets de cuisine.
Bon. Alors, La Vengeance donc, du livre uruguayen, donc, allusion à Luchon qui m'a beaucoup plu. Alors, il y a la librairie Dubreuil et Dubreuil, avec les trois Dubreuil sont sans aucun lien de parenté.
Non.
Ça, c'est rigolo. Et puis, donc, un livre de contes et de nouvelles d'un écrivain uruguayen, donc, avec une quatrième de couverture que je ne peux pas m'empêcher de lire parce qu'elle est très. J'ai beaucoup aimé, puis ça va donner une idée, voilà, un peu de la magie de cette nouvelle et de ce livre surtout. J'ai pensé chacune des nouvelles de ce livre comme une infusion. Le lecteur peut se contenter de la lire comme les historiettes qu'elles sont, mais il peut tout aussi bien délayer chacune d'elles dans un bol d'eau chaude. Il obtiendra alors, je le prie de bien vouloir me croire, une très belle bibliothèque de 423 volumes cartonnés avec dos en cuir. Alors, on a un livre comme ça, avec une quatrième de couverture comme ça, on se pose des questions. Hein. On a envie d'avancer dans la nouvelle hein, pour savoir qu'est-ce qu'il va se passer avec ce livre.
En fait, ce qui s'est passé à la base, c'était je crois que j'avais écrit ça comme présentation pour un de mes livres. Et puis, je me suis dit, c'est un peu pompeux. Mais le truc, ce que je voulais dire, c'est que on m'a déjà fait la remarque par rapport à des nouvelles que peut-être je ne m'économisais pas assez, que chaque nouvelle pourrait faire l'objet d'un roman. Donc, l'idée, c'était de dire, voilà, je ne fais pas d'économie, chaque nouvelle serait l'équivalent d'un livre. Donc, en fait, en achetant le recueil, vous achetez une bibliothèque. Et après, je me suis dit, c'est quand même un peu pompeux, donc je ne m'en suis pas servi. Et puis, après, quand j'ai écrit cette nouvelle, quand j'ai commencé à penser à cette nouvelle, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ça et je vais le prendre pour argent comptant. Voilà. Donc, en réécrivant la quatrième de couve, mais en gardant cette idée-là.
Alors, voilà. Est-ce que tu as essayé?
Ben alors, le paradoxe, c'est que oui. Le paradoxe, c'est que j'ai écrit cette nouvelle alors que j'habitais dans 30 mètres carrés, que j'étais en passe de déménager. Et je ne sais pas ce qui m'a pris sur Internet. J'ai acheté une bibliothèque de 200 livres cartonnés avec dos en cuir que je suis allé chercher du côté de Moissac avec un pote.
C'était et que tu as pu installer dans ta nouvelle demeure parce que genre dans depuis... 30 mètres carrés, ça aurait été difficile.
Depuis, ça va. Ouais. Mais j'ai eu quelques mois dans des cartons.
Ah oui, donc il y a un peu de vécu dans l'histoire. Non, hein.
Alors là, ce n'est pas une expérience. J'ai d'abord écrit, j'ai après vécu. C'est l'ordre
inverse. D'accord. Parce qu'il y a un bébé aussi. Hein. Bon, mais bon, le tien n'est pas à vendre, hein. Bien heureusement. Hein, mais...
Pour l'instant.
Oh, bah, et dans celui-là, dans cette nouvelle-ci, voilà, donc c'est le thème de la mère porteuse. Hein, voilà, oui. Et puis, il est découvert donc, de pièces dans un appartement qui ne donne vraiment pas envie de l'acheter. Quand tu nous décris l'appartement que le narrateur veut acheter, on se dit mais qu'est-ce qu'il va acheter un truc pareil
hein. Là, il faut dire que
ça fait peur.
C'est que je sais pas pour les gens qui ont eu l'occasion de visiter des appartements à Toulouse, la frénésie de l'immobilier
et fait oui, que des fois, on vend on du tombe mètre sur carré. Des choses,
il y a même
vrai,
des gens qui pètent les cheminées pour gagner 80 cm2. Ouais. Donc
c'est une très bonne nouvelle, vraiment très amusante, avec une fin aussi loufoque que le déroulement de l'histoire. Hein, vraiment, on sourit beaucoup à chaque page. Donc vraiment à savourer sans modération. La troisième nouvelle, La coulée de béton infernale. Alors là, on nous parle, il y a des jolis lieux, hein, comme Notre-Dame des Eaux-Îles et puis le cimetière marin de Gruissant, que je connais d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup. Donc ça m'a fait plaisir de le retrouver
ouais, c'est
là.
C'est un chouette lieu. Ouais.
Oui, c'est voilà, un lieu, comme c'est écrit, je cite, un lieu féerique, une errance mélancolique dans la Pinède. C'est tout à fait ça.
Et donc, je réfléchis d'ailleurs, mais c'est pas, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais je réfléchis un peu autour du personnage que j'ai créé là, voir si je ne lui donnerai pas une vie un peu plus large au-delà de cette nouvelle.
Ah oui. Oui.
C'est le personnage s'appelle Antoine Faidit. C'est
il est exorciste. Ouais, mais il alors, est sorcier l'idée... exorciste.
Voilà. mais l'idée en fait, c'est que c'est un intellectuel précaire qui, n'ayant pas trouvé sa place dans la société, se traîne un peu quoi jusqu'au jour où en fait on lui passe le don de manière complètement accidentelle et ça l'intéresse pas particulièrement, mais c'est son gagne-pain quoi. Donc lui il voit ça voilà. comme un type qui regarde
sorcier
sa montre
exorciste, voilà.
Et qui en parle comme d'un boulot. Donc c'était fait. Un peu ça l'idée, et en même temps qui est confronté à des événements surnaturels.
Oui. Tout mais... se bétonne, hein. La clape est bétonnée. Voilà. Alors ça c'est incroyable.
Mais l'idée c'est ça, c'est tout ce que je ne comprends pas. Mais égal surnaturel. Je ne comprends pas
oui,
pourquoi
voilà,
on bétonne.
Donc forcément. Voilà. Voilà.
Pourquoi on bétonne le littoral languedocien alors qu'on a déjà vu ce que ça donnait en Provence. Donc je me dis bon, soit les gens sont fous, soit c'est des fantômes. En tant qu'humaniste, je me dis c'est des fantômes.
Et donc, c'est là qu'il y a le marquis béton de la bétonnière,
oui.
qui veut se venger, en fait.
Oui, parce qu'on lui a volé son pont.
Voilà, qu'on lui a volé son pont. Donc voilà, donc c'est une histoire voilà, tout à fait loufoque, hein, comme on aime, avec deux esprits malins, hein, qui est pour cette nouvelle complètement ensorcelée et ensorcelante. Hein.
Donc, et en plus, avec le personnage de Gisèle, que je trouve qui est assez,
oui,
assez sympathique.
Oui, tout à fait. Donc voilà, une bonne nouvelle encore. La quatrième, c'est l'attaque des dauphins tueurs, donc qui porte le même titre voilà. que le recueil. Mm-hmm. Alors ça, c'est pareil, c'est une histoire, donc l'histoire de Jean et Kevin et de Tiphaine. Un clin d'œil, j'ai trouvé qu'il y avait un clin d'œil au livre de la jungle avec le serpent qu'a... À un moment, non ?
Bah, disons que le livre de la jungle reprend un peu la genèse. Donc,
oui.
Moi, j'étais plus dans cette image oui, du serpent, mais ce n'était pas forcément le livre de la jungle. C'était vraiment reprendre le mythe d'Adam et Ève, version
oui, aussi,
moderne.
Oui, oui.
Et avec cette question du...
Des dauphins tueurs, voilà.
Ouais, et du livre de la connaissance, enfin, de l'arbre de la connaissance, qui est un thème qui me travaille de plus en plus et que j'ai envie de développer. Et là, il y a... deux choses. Donc, il y a ça, il y a en fait le rapport à la réflexion. Et il y a aussi ces dauphins tueurs. Alors, on peut y voir ce qu'on veut. Mais dans
qui
mon
sont
idée,
devenus, hein, parce qu'on voilà. apprend qu'ils sont devenus. Voilà.
Pour
ils
moi,
n'étaient pas au départ.
Les dauphins tueurs sont les intellectuels qui ont refusé de se mêler à la vie publique et sont partis aller nager à poil parce que ça les dégoûtait.
Oui, ils sont
les affaires publiques
oui.
les dégoûtaient, ils sont au-dessus de tout ça, etc. Et puis, eh ben, à pas parler, à pas s'imposer, eh ben, ils se retrouvent avec des mecs qui vont les chasser pour en faire des sushis. Donc, du coup, ils
parce
se révoltent.
C'est un monde très policé, hein, policé à l'extrême. Hein,
oui,
dans
mais c'est un peu une
rentre,
symbolique
hein.
par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire,
oui.
les intellectuels ne servent pas à grand-chose aujourd'hui parce qu'ils sont partis à la plage. Et donc, ça
oui.
serait bien qu'ils s'aiguisent les dents un peu.
Et qu'ils reviennent
voilà,
de la plage.
Et qu'ils aillent attaquer.
avec un maillot de bain.
Voilà, et qu'ils aillent attaquer. Les plagistes.
Alors, c'est en plus, dans cette nouvelle, on remonte le fil hein, de l'histoire hein, à rebours. Hein, c'est original aussi comme construction.
Puis,
j'ai bien aimé. Hein.
Et puis aussi, avec, je me suis bien marré à faire une espèce de pastiche de scénario d'horreur avec les dauphins qui se glissent partout, qui sont des
oui.
de choses visqueuses.
Oui. C'est... Non, mais il est vraiment... C'est voilà, une nouvelle aussi, pareil que les autres, excellente. Vraiment, on sourit très souvent. Il y a plein d'allusions hein, aux hippies, aux communistes, aux gauchistes. Enfin bon, c'est plein d'humour, hein, comme toutes
mais
les nouvelles.
Disons que ça, c'était lié à quelque chose quand même qui était très présent il y a quelques années, encore aujourd'hui. C'est que je trouve qu'on a une sémantique un peu agressive par rapport à ça. Quand on se permet de traiter les gens de gauchistes, etc. Je trouve ça étonnant. On a vraiment ça sent un peu les années 30. Donc, c'était justement, je reprends cette sémantique pour m'en moquer parce que je trouve ça un peu effrayant
en
guise d'insulte de dire à quelqu'un que c'est un gauchiste. Donc, voilà.
Donc, voilà, une nouvelle. Alors, la cinquième et dernière, alors, c'est MMMDEM. Alors, traduction. Michel, mon Maori, Dieu et moi. Voilà, les initiales de... Alors, celle-là, elle est excellente également, avec Édouard qui vit seul dans sa maison dans le sud de la France et qui est proche de la nature et qui n'aime pas les gens. Et puis, un beau jour, il voit débarquer quelqu'un, une personne un peu âgée qui s'appelle Michel et qui a décidé eh bien, de finir sa vie dans son jardin, dans le jardin d'Édouard.
Alors, il y a un élément qui est important dans les deux protagonistes. En fait, les deux protagonistes sont des cons. En fait, ce que je reproche dans cette nouvelle, c'est un peu la destruction du pays, entre guillemets, l'Oupaïs.
Oui, la nature. Voilà. Oui.
C'est-à-dire que Édouard ne fait rien de son héritage. C'est-à-dire qu'il laisse tomber chez lui, il l'entretient pas, il en a vécu que pour lui.
Et Michel, lui, va l'entretenir, ce jardin.
Non, finalement. Michel, il va le détruire pour en faire une piscine.
Aussi. Ah oui, en fait, il va le piscinaliser, voilà, hein, c'est ça, voilà. C'est un terme aussi.
Donc voilà, c'était en fait cette double critique qui est à double sens. Voilà.
La critique, oui, puis bon, il va souvent à l'huître bleue en Espagne, voir les filles.
Voilà, voilà. Puis il y a aussi un peu des considérations un peu racistes aussi, au passage.
Donc voilà, donc il rencontre M. Serval qui va lui apprendre, on ne sait pas comment il a su ça, mais que voilà, qu'un Maori aurait tué un des ancêtres d'Edouard, et Edouard va se mettre dans la tête de chercher un Maori pour le tuer, pour le manger aussi,
oui,
afin de
c'est
manger
tout l'échec de sa vie se résume, il en veut aux Maori.
Il cherche un coupable, en fait.
Voilà, tout à fait.
Et donc, il va trouver Jean-Claude, qui n'est pas du tout maori. Enfin bon, c'est complètement loufoque, là aussi. Mais avec, bien entendu, quand je dis ça, amusant, loufoque, burlesque, il y a un fond. Les thèmes sont réels, sont actuels. Et
ah, mais moi, si j'ai pas de thème, j'ai
moquer,
du mal à partir.
Voilà, hein, de ce qui se passe actuellement de notre monde, dans notre société. Hein.
Je suis un peu lent à l'écriture parce que j'ai vraiment besoin de me construire une vision des choses avant et de savoir de quoi je veux parler.
Ah ben là, tu as... Tu as trouvé, là, c'est tout à fait. Donc voilà, donc ça c'était la cinquième. Donc cinq nouvelles vraiment où on sourit à chaque page, que je vous recommande absolument. L'attaque des dauphins tueurs aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture par Julien Campredon. Merci beaucoup Julien, et puis tu reviendras nous parler eh bien, de tes prochaines, peut-être le roman sur lequel tu es en train de travailler.
Oui, bah, j'y manquerai pas, ça sera avec plaisir.
Ah bah, avec grand plaisir, voilà, aussi puis, pour moi. Et puis merci pour ce bon moment où on sourit et tout en étant relié au thème de l'actualité, hein, malheureusement, je dirais, hein, voilà, qui nous rattrape. Mais voilà, beaucoup d'humour.
Merci beaucoup pour l'invitation, Julien. Et je dirais aux auditeurs, bonne écoute de la chanson qui vient de Mauresque Fracadub.
Oui, et je dis juste qu'on se retrouve le 29 mars à 15h sur les ondes de Radio Occitanie. Je recevrai Frédéric Martin pour son nouveau roman « Le vase où meurt cette verveine » aux éditions Belfond. Et donc, on écoute, comme tu dis, cette chanson que tu as choisie, Julien.
Eh bien, bonne écoute. Allez.
Merci. Adiciat.
Des histoires de fous, fermés à double tour, notre vie sans le vicier. Mais la nuit, les fracas sortent de partout, attisent le feu de nos espoirs massacrés. La culture populaire est à l'agonie, faut juste crever l'écran à la Star Academy. L'organe du pouvoir siège au cœur du salon, diffuse la propagande des bourgeois bon ton. Le jour appartient aux galeries marchandes, la nuit aux hiboux résistants gratteurs de papier. Si tiens-moi le ridim, on a moi tous ensemble le méchant cri des vieilles bartacités. Trop d'évidence soumiante, trop d'ignotes perdants. Nuit parce que d'autres crèvent de faim, ils crèvent de faim pour que tu crèves d'ennui. Les gangsters modernes gèrent les flux financiers, y'a plus de fric pour la sécu de tes minots. Ils touchent le jackpot en entrant à Matignon. Je coupe les acédiques et partage le gâteau avec des porcs déjà gavés de pognon. Dans nos Vosges bouillonne l'alliage des cultures et nos cas d'âmes sont peines à craquer. Mentalement le système cloisonné à mur, mais la nuit les chouettes quittent. leur clocher. Trop d'évida soumia, trop d'ignoc verdan sa. Poudre jamai, jamai dormi. Des ridima farga, des fioca flamba. Poudre jamai, jamai dormi. Trop d'évida soumia, trop d'ignoc verdan sa. Poudre jamai, jamai dormi. Des ridima farga.
Prenons le maquis, les chemins de traverse, les vieux océans. Cultive l'angoisse, ils élèvent les soucis, fauchons, détruisant leur idéal marchand. Contrebandiers, flibustiers et corsaires s'organisent pour armer leurs vaisseaux, leurs navires, leurs barques, leurs galères, embarcations de fortune au fil de l'eau. Les lumières de la ville éclairent nos silhouettes, attaquons de France et remparts épais. Mille sentinelles aux yeux de chouette survolent du regard le monde emprisonné. Les lumières de la ville éclairent nos silhouettes, attaquons de France et remparts épais. Mille sentinelles aux yeux de chouette survolent du regard le monde emprisonné.
Existe-t-il ? L'amour existe-t-elle ? Qu'on le dit dans les îles, on dit qu'il donne des ailes. Qu'il donne des ailes aux îles, des idées aux oiselles, des oiseaux indociles, des faubourgs d'hirondelles. Je ne peux vivre sans îles, je ne peux vivre sans elles. Sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle. L'amour existe-t-il ? L'amour existe-t-elle ? Qu'on le dit dans les îles, on dit qu'il donne des ailes. Du feu et du Brésil, du tambour de la grêle, du violon à tes cils, des larmes au violoncelle. Je ne peux vivre sans îles, je ne peux vivre sans elles. Sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle. L'amour existe-t-il ? L'amour existe-t-elle ? Qu'on le dit dans les îles, on dit qu'il donne des ailes. Des cerfs indélébiles, des bastions de rebelles, des étoiles qui filent, des frissons mortels. Je ne peux vivre sans îles, je ne peux vivre sans elles. Sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle. Des sept îles aux Seychelles, des sandwichs à Belle-Île, de Watt au septième ciel, de l'île d'El Babelville. Ils courent dans les ruelles, feu follet volatile. L'amour est l'essentiel, l'existence est son île. Je ne peux vivre sans île, je ne peux vivre sans elle. Sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle. Je ne peux vivre sans île, je ne peux vivre sans elle. Sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle.